Chapitre 11. Oraison funèbre. Le docteur Patrice avait aussitôt communiqué à la famille de René le document qui lui arrivait. D'abord, en voyant l'écriture de son fils, Madame Caudal avait cru tout sauvé. Mais après la lecture de sa lettre, et quand il fallut comprendre qu'elle datait déjà de 3 semaines, il devint bien difficile de conserver aucun espoir. C'était fini. Son René, son enfant bien-aimé, avait trouvé la mort dans sa folle entreprise. D'ailleurs, elle l'avait toujours pressenti, ou, pour mieux dire, toujours su, cette mère avide lui prendrait le fils, comme elle lui avait pris le père. Ces flots bleus qui semblent sourire au ciel devaient être le tombeau de tous les siens. C'était écrit Kismet. Comment avait-elle pu jamais conserver quelque espérance? À quoi bon lutter contre la fatalité? N'avait-elle pas été d'avance certaine de la fin, le jour où René embrassa cette carrière abhorrée? Malheureux enfant, n'aurait-il pas mieux valu le perdre au berceau, ne l'avoir élevé, choyé, chéri, que pour arriver à cet irrémédiable naufrage? N'y avait-il pas là de quoi s'abandonner au désespoir? Et cette mère éplorée se laissait en effet miner par sa douleur. En vain, Hélène, oubliant son propre chagrin pour lutter avec celui qui tuait Madame Caudal sous ses yeux, s'efforçait-elle de trouver des consolations, d'inspirer à sa tante un espoir qu'elle-même avait cessé d'éprouver. Non seulement Madame Caudal repoussait tous ses arguments qui auraient pu militer en faveur du salut de son fils, mais encore elle s'irritait lorsqu'Hélène, timidement, suggérait qu'il pouvait avoir écrit, que sa nouvelle missive pouvait s'être égarée. « Tu es absurde, ma chère enfant !» s'écriait Madame Caudal. « Est-ce que les lettres se perdent ? Dans toute ton existence, as-tu vu plus d'un exemple de ce fait ? 2 au plus ? Non, non, il n'y a pas de lettres, parce qu'il n'en a pas écrit. Et s'il n'a pas écrit, mon pauvre fils, c'est parce qu'il est... » Et, ne pouvant prononcer l'affreux mot, la malheureuse femme cachait en sanglotant son visage dans ses mains. « Mais, tante Alice, reprenait Hélène, les yeux pleins de larmes, elle aussi, vous sentez bien que je ne parle pas de lettres ordinaires, mises à la poste tout uniment. C'est déjà assez extraordinaire que celle-ci soit arrivée par ce courrier primitif. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'en a pas envoyé d'autres, qui se promènent en ce moment sur la mer, attendant qu'on veuille bien les repêcher? Je te dis qu'il n'y a aucune chance !» s'écriait Madame Caudal, peut-être pour s'entendre contredire et se donner des arguments contre sa conviction secrète. « Non, j'étais veuve, je n'avais qu'un fils, et maintenant me voilà sans enfant. Je survis à tout ce que j'ai aimé. Il n'y a que moi dont la mort ne veuille pas. « Oh, tante Alice, et moi ?» demandait Hélène en pleurs. « Êtes-vous donc sans enfant tant que vous avez votre petite fille ? Pardonne-moi, ma chère mignonne, la douleur me rend méchante, » disait la mère désolée, en pressant la jeune fille sur son cœur. « Mais ton affection m'est bien douce, tu n'en doutes pas. En le pleurant, est-ce que je ne pleure pas pour toi aussi bien que pour moi ? Si je perds un fils, ne perds-tu pas un fiancé ? Un fiancé comme aucune jeune fille n'en pourrait souhaiter de plus charmant ? Aussi, je ne veux pas le pleurer, » répondait vivement Hélène, pour ne pas abonder dans un sens embarrassant. « Quelque chose me dit qu'il nous reviendra, et quelle joie alors ! Pauvre petite, tu es jeune, à ton âge on ose encore espérer contre l'évidence. Mais moi, vois-tu, j'ai trop souffert, c'est fini, du reste, je le savais d'avance. » C'étaient là les meilleurs moments de Madame Caudal. En d'autres, plongée dans un silence morne, elle s'abandonnait à une douleur sans larmes qui brisait le cœur d'Hélène. La brave enfant ne savait quelle parole trouver pour panser une blessure si cruelle et ne se donnait même pas la triste douceur de pleurer son frère d'adoption, tant l'état où elle voyait l'infortunée mère lui causait d'inquiétude et de chagrin. Le docteur Patrice la secondait de son mieux dans ses efforts affectueux. Mais que dire, que faire, lorsqu'au fond tous partageaient la même conviction? Hélène et le docteur avaient songé d'abord à ramener Madame Caudal au peuplier, pensant que chez elle, dans son milieu familier, Loin surtout de cette mer qu'elle ne pouvait regarder sans frémir, elle reprendrait un peu de calme, arriverait plus facilement à se résigner. Mais Madame Caudal avait opposé un refus catégorique à cette proposition. Elle ne quitterait pas la ville jusqu'à ce qu'on eût appris quelque chose de définitif. « C'est d'ici qu'il est parti, c'est ici qu'il reviendra s'il doit revenir, » répétait-elle. Et force fut bien de s'incliner devant une volonté aussi nettement exprimée. De son côté, Hélène éprouvait au fond, elle aussi, le désir de rester. Il lui semblait que Madame Caudal avait raison, que si René devait revenir, il reviendrait là. Et puis n'avait-elle pas ici la précieuse sympathie de leurs nouveaux amis de l'Hercule et de leur vieil ami Étienne? Le dévouement de celui-là surtout était infatigable. Si quelqu'un avait pu remplacer l'absent, c'eût été lui. Chaque jour, Hélène sentait croître la sympathie qu'il lui inspirait. Il fallait, à la vérité, que le jeune savant fût aveugle pour ne point s'en apercevoir. Mais lui et Madame Caudal étaient apparemment atteints de la même cécité morale, car, de jour en jour, la bonne tante se persuadait davantage que René et Hélène avaient été fiancés, et sans cesse la réserve et la tristesse du docteur Patrice s'accentuaient. Si Hélène avait pu, invisible, assister à certaines conversations entre les officiers de l'Hercule, peut-être aurait-elle pénétré plus aisément le secret de cette réserve. C'était un soir que ces messieurs quittaient le salon de Madame Caudal après avoir passé la soirée chez elle. « Mademoiselle Rieu est véritablement charmante », avait commencé le commandant Haraucourt. « Elle paraît aussi bonne qu'elle est jolie. Combien son affection pour cette mère si éprouvée et touchante !»« C'est vrai, » dit le lieutenant Briand. « Si ce mot n'était pas devenu trop banal, on dirait qu'elle semble l'ange gardien de sa tante. Un bien joli petit ange, et habillé par la bonne faiseuse, » dit légèrement le jeune Desbruyères. « Vous connaissez beaucoup ces dames, Patrice ?»« Beaucoup, » répondit avec assez de froideur le docteur. « Heureux mortel, et j'imagine que Mademoiselle Rieu est bien dotée. »« C'est probable, » articula Patrice de plus en plus glacial. « Ce pauvre Caudal, s'il ne revient pas, ce qui est à craindre, sa cousine héritera sans doute de sa fortune. » Le docteur se tut. « En héritera-t-elle ? » reprit gaiement Desbruyères. « Ne vous formalisez pas de ma question, je vous en prie, car, en somme, je ne porte aucun préjudice à ce pauvre Caudal que j'aimais de tout mon cœur, en constatant ce qui, après tout, est un fait. « Diable ! » interrompit le commandant. « Si en effet Mademoiselle Rieu hérite de la fortune de ce pauvre garçon, elle sera certes une des plus riches héritières du pays. Vous savez que je suis de ces côtés-là, je connais leurs terres. Eh bien, Patrice, voyons, quelles sont les espérances du charmant ange gardien ?» demanda Desbruyères, qui semblait prendre un malin plaisir à tourmenter le docteur. « J'ignore tout à fait ce que peuvent être les espérances de Mademoiselle Rieu, » répondit Patrice, exaspéré. Et pour parler net, je trouve que cette question ne concerne ni vous ni moi. » Sur ce, tournant brusquement les talons à ses camarades, il s'enfonça seul dans la première rue qui s'ouvrit devant lui. Desbruyères éclata de rire. « Tiens, 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 aurait-il lui-même des vues sur Mademoiselle Rieu ? » s'écria-t-il. « Il paraît que c'est un terrain réservé. Avouons-le, » dit le commandant avec un peu de gravité. La discussion s'engageait d'une façon qui n'est peut-être pas du meilleur goût, et ne nous étonnons pas trop qu'un ami de la famille s'en soit trouvé froissé. « C'est ma foi vrai, » répondit sans détour Desbruyères. « Mais je ne croyais pécher contre aucune convenance en proclamant bien haut mon admiration pour cette charmante jeune fille, et en m'enquérant, dans une curiosité toute désintéressée, je vous l'atteste, du chiffre probable de sa dot. » « La vie de cette pauvre mère sera irrémédiablement brisée si ce malheureux enfant ne reparaît pas, » dit le commandant pour changer le sujet de la conversation. « Y a-t-il un sort plus pitoyable que celui des femmes de marins ? Mères, fiancées ou sœurs, c'est toujours le deuil qui les attend, dirait-on. « Oh, mon commandant, j'espère que vous ne répandrez pas ces vues pessimistes parmi les demoiselles à marier !» s'écria Desbruyères en affectant l'inquiétude. « Ce serait nous handicaper trop injustement. Grand enfant, dit M. Haraucourt en riant, ce n'est pas vous qui mériteriez qu'on vous regrettât. Pourquoi avez-vous tourmenté de la sorte ce pauvre Patrice? Pourquoi plutôt se tourmente-t-il de ce que j'ai dit? Un chien, dit le proverbe, peut bien regarder un évêque. À plus forte raison en enseigne une aimable jeune fille, il me semble. N'importe, interrompit M. Briand. Je suis de l'avis du commandant que tes questions ont dû peiner Patrice. N'eût-il pas été d'un bon camarade de les interrompre? Allons bon, tout le monde s'y met alors. Bonsoir, je me sauve. Mais j'en suis pour ce que j'ai dit. Mademoiselle Rieux est charmante et si, par-dessus le marché, elle est très riche, la marine n'a plus qu'à se mettre en masse sur les rangs. Moi, du moins, je le dis sans fausse modestie. Je suis prêt à accomplir jusqu'au bout mon devoir d'officier français. Et, riant de tout son cœur, il quitta ses deux compagnons, qui étaient ce soir-là par trop sérieux pour son goût. Quant à Patrice, cette idée nouvelle, présentée d'une façon si légère par l'enseigne, avait été pour lui un coup de poignard. Si René avait perdu, Hélène hériterait de sa fortune. Elle serait, avait dit le commandant, une des plus riches héritières du pays. Donc, doublement, il serait forcé de veiller sur lui-même pour ne pas trahir son secret. Si la fortune d'Hélène était doublée, il lui faudrait plus que jamais fuir la jeune fille, ne rien laisser percer de l'enthousiasme qu'elle lui avait inspiré. Oh, combien plus encore il désirait que René sortît sain et sauf de ce fatal voyage. Desbruyères avait parlé comme s'il se doutait de quelque chose. Se pourrait-il que lui, Patrice, eût l'air de rechercher Mademoiselle Rieux par intérêt? Plutôt ne jamais la revoir. Quel dommage, quel dommage! Elle était si charmante, et Patrice en était sûr. L'affection qu'Hélène et René ressentaient l'un pour l'autre n'était que fraternelle. De là ce sérieux, cette gravité, presque cette froideur que le jeune docteur témoignait de jour en jour plus marqué à la pauvre Hélène et qui ajoutait un élément de tristesse et d'inquiétude à tous ceux qui rendaient si pénible leur existence actuelle. Parmi tous les amis de ces dames, celui qui affectait de prendre la part la plus active à leurs transes et à leurs espoirs était, sans contredit, le prince de Monte-Cristo. D'abord, partout où il paraissait, il aimait fort à accaparer l'attention universelle. Que l'événement fût heureux ou malheureux, guerre, naufrage ou victoire, course de chevaux, mariage ou décès de ses amis, son Altesse entendait jouer, partout où elle se trouvait, un rôle prépondérant. Et dès le premier moment, le digne homme avait pris en main la disparition de René. Tous les jours, il accourait, empressé, important, bavard, pour annoncer qu'il n'y avait rien de nouveau. Il parcourait le port, offrant des récompenses princières à quiconque lui apporterait des nouvelles du bateau perdu. Il faisait insérer dans les journaux des notes, informant à chacun que le prince de Monte-Cristo, vivement affecté de la perte probable de son jeune collaborateur, l'enseigne de vaisseau caudal, dont, par parenthèse, il avait en quelque sorte inspiré l'aventureuse entreprise, renonçait à sa croisière d'été habituelle et dirigeait en personne les recherches à bord de son yacht Cinderella. Mort ou vif, avait-il prononcé noblement, il retrouverait son ami. Les Monte-Cristo, on le sait, sont fidèles de naissance. Leur devise, d'ailleurs, les y oblige. Tout le monde sait qu'elle se compose de ces simples mots. Jusqu'à mort. Et le dernier héritier de la race ne laisserait pas péricliter en ses mains le renom de sa royale maison. Aussi, grisé par les éloges qu'il se décernait à lui-même, le digne homme se multipliait-il. On ne voyait que lui dans la ville, sur la rade et dans le salon de Madame Caudal. Et la pauvre mère finissait par en être excédée. Elle avait appris à redouter le coup de sonnette du prince et la façon dont il s'installait en face d'elle, lançant ses gants dans son chapeau d'un geste péremptoire et se frappant les genoux de l'air d'un homme qui a tout lieu d'être satisfait de lui-même.
« Aujourd'hui, madame, proclamait-il de sa voix de stentor, nous avons accompli un pas, un grand pas, si j'ose ainsi dire. »«
Ah, mon Dieu, monsieur, que s'est-il passé ?» s'écria la pauvre mère tremblante.
« Nous avons résolu, madame, de faire descendre en mer le scaphandre de notre regretté René. »«
Comment, monsieur, vous partiriez ?
Permettez, chère madame, c'est ici que nous allons procéder à nos premières recherches.
Mais puisque lui-même dit être sorti de ses eaux, objectait madame Caudal perplexe.
Peu importe, c'est un détail. Je disais donc que nous allions procéder à des sondages ici d'abord. S'ils sont malheureusement infructueux, comme il n'y a que trop de raisons de le craindre,
ne vaudrait-il pas mieux, cela étant, chercher là où on a chance de le trouver ? Interrompait timidement madame Caudal. Certes, je n'aurais jamais osé vous le demander, monsieur, mais puisque vous avez la bonté de me l'offrir...
Un instant, chère madame, il faut chercher d'abord ici, pour le cas, d'ailleurs peu probable, où notre cher jeune ami se serait perdu en revenant. Si nous n'arrivons à rien, nous en serons quittes pour recommencer ailleurs.
Alors, disait madame Caudal déçue, il n'y a rien de nouveau.
Jusqu'à présent, non, madame, non. Mais n'ayez crainte, je me charge de le retrouver, et mort ou vif, je vous le ramènerai, foi de Monte-Cristo.
Et il se campait de trois quarts d'un geste de défi dans la pose de son fameux portrait par Bonnat. D'autres fois, il entreprenait de décrire, ou plutôt d'expliquer à la mère de René, le caractère de son fils, n'ayant jamais l'air de se douter qu'elle devait le connaître beaucoup mieux que lui et que toutes les paroles qu'il débitait étaient parfaitement oiseuses.
« Votre fils, madame, est un homme... ce que j'appellerais un homme d'avant-garde. Il sera toujours en avance de son siècle, et c'est pour cela qu'il n'arrivera jamais à rien.
Mais permettez, monsieur, s'écria madame Caudal, blessée dans son orgueil maternel. Mon pauvre enfant, au contraire, a toujours admirablement réussi tout ce qu'il a entrepris. Même ce funeste bateau, vous en êtes témoin, a marché juste comme il l'entendait. Et toute sa vie, René a eu la main heureuse. 100 fois, nous l'avons remarqué. N'est-il pas vrai, Hélène ?
D'accord, madame. Mais ce que je veux dire, c'est que votre fils étant d'un naturel trop aventureux pour se contenter des sentiers battus, devait fatalement s'engager dans quelque aventure, comment dirais-je, téméraire, imprudente, déraisonnable.
Mon Dieu, monsieur ! On n'a pas eu l'air de la trouver si déraisonnable quand son expérience a réussi. Même, si j'ai bonne mémoire, votre Altesse a revendiqué une large part dans son invention.
Très juste, parfaitement exact, madame,
répondait le prince en roulant des yeux blancs. Et derrière le dos de madame Caudal, il se livrait à une pantomime expressive, se tapant le front et regardant la mère de René d'un air de compassion, comme pour dire que son chagrin l'avait rendu incapable de suivre un raisonnement sérieux. En somme, le prince de Monte-Cristo et madame Caudal ne s'entendaient guère, et n'eût été la vive admiration qu'il professait pour mademoiselle Rieux et son désir excessif de se mêler à tout ce qui excitait, de près ou de loin, la curiosité publique, l'Altesse royale eut bien vite cessé toute relation avec des petites bourgeoises qui n'avaient même pas l'air de se douter qu'il y avait de sa part une grande condescendance à frayer avec elle. Il est vrai que le prince trouvait tout à fait moderne et digne de lui de mettre, pour ainsi dire, sa couronne dans sa poche et de n'être plus, en présence de femmes comme il faut, qu'un homme du monde. Mais il ne lui eut pas des plus consentis ce que sa conduite avait de magnanime. Cependant, en dépit des légers heurts qui se produisaient chaque fois qu'il se trouvait en rapport avec madame Caudal, il persistait à jouer son rôle d'ami et protecteur de la famille et à se montrer fort assidu chez elle. Bientôt, l'Hercule quitta les eaux de Brest pour se rendre dans la Méditerranée. Madame Caudal et Hélène furent bien heureuses lorsque Patrice leur annonça qu'il ne s'embarquait pas pour ce voyage sur le croiseur. Elles n'eurent pas de peine à comprendre que c'était afin de rester encore quelque temps auprès d'elle, et l'appui moral de sa compagnie leur fut précieux, dans une détresse chaque jour plus grande.